Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous lorsque la passion prend le dessus sur la profession. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Iman Qandili, bonjour.
Bonjour.
Comme on dit, Iman Qandili, Rania Antarif, puisque tu es une psychiatre reconnue et connue à l'échelle internationale pour justement tes engagements, notamment en faveur de la sensibilisation contre les usages de drogue, la santé mentale de façon générale. Et puis, je voudrais rajouter aussi et préciser que tu as fait partie de la première cohorte de femmes d'aujourd'hui, peut-être même le premier mois de diffusion de ce podcast féminin. Et là, on se retrouve 4 ans après. Tout va bien, Iman.
Merci beaucoup, Yasmine, pour ton invitation. Et puis, j'admire et j'adore cette émission que je ne rate pour rien. Le monde.
Ah ben merci infiniment. Alors, ce que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, en particulier Iman, de par justement tout ce que tu diffuses sur les réseaux sociaux à travers tes différentes participations dans différents événements internationaux, c'est ce que tu as appelé toi-même la diplomatie sanitaire. C'est que très souvent, on parle de diplomatie culinaire, de diplomatie au sens littéral du mot, mais il y a aussi la diplomatie culinaire, la diplomatie sportive, mais on entend rarement parler de la diplomatie sanitaire. Qu'est-ce qui fait que la femme que tu es aujourd'hui considère, et la spécialiste que tu es aujourd'hui considère, que c'est un élément important à développer?
Alors Yasmine, la diplomatie sanitaire, elle a été particulièrement soulignée par la pandémie Covid-19. D'abord parce que la santé, qui était un petit peu dans sa tour d'ivoire, un peu mise de côté comme étant un élément important, oui, mais très peu lié aux autres aspects, en particulier à la diplomatie ou au contact entre les pays, s'est vue en fait soulignée particulièrement par l'importance de la coopération et l'importance de la fluidité entre les différents pays au moment de la pandémie, où là, il n'y avait plus réellement de frontières entre le Nord et le Sud et qu'il fallait absolument s'engager dans une bataille sans merci. Maintenant, la santé fait partie de la sécurité. Ce qui dit santé dit sécurité, et on peut voir que la santé peut facilement, quand on sent qu'on notre intégrité physique, parce que la santé, ce n'est pas que physique, c'est aussi sociale, psychologique et bien entendu environnementale et en quelque sorte menacée, on se retrouve des fois dans certains petits débordements. La santé étant devenue sécuritaire post-pandémique, je ne suis pas initiatrice de la diplomatie sanitaire, j'ai eu l'occasion de présenter au cours de la conférence de Davos la diplomatie sanitaire et l'importance de la réconciliation, de celle-ci dans l'importance de la réconciliation entre gouvernement et gouverné. Et comment construire en fait comment construire les liens et reconstruire une confiance. Une confiance et une réalité de projection. Et en effet, dans les pays de coopération Sud-Sud, la santé est quelque chose de très important. Un, dans le sens où on est dans la construction, on a une pyramide avec 60 à 70% de jeunes de moins de 25 ans, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud et certains pays d'Asie. Et puis, le fait de devoir pouvoir construire les choses en amont et non en aval. On parle aujourd'hui de diplomatie sanitaire comme étant un lien non seulement, comme il a été dit plusieurs fois, sécuritaire, mais aussi un lien environnemental de projection, de construction sociale et de réconciliation entre gouvernants et gouvernés.
Ok, alors une petite nuance peut-être, enfin question. C'est que pendant la pandémie de la Covid-19, on a vu cette action-réaction du Maroc en première ligne avec le développement de rapidement. On n'a pas eu de pénurie de masques, on n'a pas eu de pénurie de vaccins, on n'a pas eu ce genre de choses, on n'a pas vécu ça. C'est-à-dire qu'on a vu un leadership en marche. Et puis là, actuellement, ce qu'on est en train de vivre, c'est une remise en question du système sanitaire national. Alors, comment parler de diplomatie sanitaire quand, au niveau local, il y a des défaillances?
Alors, ben justement, Justement, les défaillances ne peuvent pas. Il y a des défaillances partout, dans tous les systèmes de santé. C'est une question qui est ouverte, qu'on soit dans les pays du Nord dits très développés, qu'on soit dans des pays en transition ou des pays en cours de développement. En fait, la santé est quelque chose de mouvant, parce que c'est une relation au corps, c'est une relation à l'environnement, c'est une relation à la postmodernité avec les nouvelles consommations, et c'est une relation aux différentes sociétés et aux différentes perturbations. Le changement climatique aussi joue un rôle, avec la recrudescence maintenant des maladies infectieuses, alors que pendant 20 ans, on n'a fait que parler des NCD, c'est-à-dire des maladies non transmissibles. Maintenant, le fait que ce soit en mouvance et qu'on puisse en discuter, rien ne se résout sans pouvoir se mettre à table et discuter justement de manière diplomatique, sereine, pour pouvoir se projeter et avoir de réelles réalisations partout dans le monde.
Mais pour porter une diplomatie sanitaire, donc quand on parle de diplomatie, c'est que forcément c'est à l'échelle internationale, est-ce qu'il faut avant tout résoudre ces problématiques internes ?
Mais il y a à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle communautaire, en interne. On peut utiliser l'outil diplomatique également en interne. Maintenant, pendant la Covid-19, le Maroc a été exemplaire sous la houlette de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et a été exemplaire de par la coopération de la santé avec le ministère de l'Intérieur.
Oui.
Donc, avec cette composante sécuritaire, les systèmes de santé de par le monde, je ne fais que citer des choses qui sont évidentes dans certains pays où justement les systèmes de santé sont à la pointe. Souvent, c'est une coopération entre la santé, c'est-à-dire les ministères de la santé et de l'intérieur, parce que la santé justement a ce cadre sécuritaire de pouvoir gérer entre les différentes composantes. La criminalité chez les jeunes est un facteur de santé également, de santé mentale, de santé sociale, de santé psychologique et de santé physique et d'intégrité. Donc cet outil-là peut ressortir de manière différente et est adaptable aussi d'un point de vue communautaire, en intra, pas seulement en interrelationnel avec d'autres pays.
Alors ça c'est le volet purement, on va dire, engagement professionnel, mais derrière le travail du cabinet, le travail de défendre ces dossiers à l'international, il y a aussi la femme, il y a aussi la mère. Lala Imen.
Oui.
Yeg.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais.
Il y a surtout la mère, surtout la
mère. Yeg, la femme vient après.
Il y a surtout la mère, la femme et la mère avant de pouvoir parler du travail ou de l'engagement. Parce que si on n'est pas dans cette intégrité ou de cohésion avec soi-même et avec les plus proches, c'est très difficile de pouvoir aller sur autre chose.
Alors, par rapport à tout ça, justement, toutes ces femmes qui se posent la question, comment on fait ? Comment on fait pour pouvoir porter haut et fort des messages, des missions de vie, tout en étant maman ? Comment on fait quand on est obligé de passer la journée au boulot et de devoir voyager ? Comment on compose tout ça ? Toi, tu as la chance d'être psychiatre, c'est-à-dire que tu as peut-être aussi ces mécanismes, ce jargon. J'imagine, enfin, je ne sais pas s'il y a une petite déformation professionnelle dans l'explication des contextes et des choses.
Il y a des petites déformations, et justement qui ne sont pas toujours positives, où il faut justement faire attention. On a tendance chez les psychiatres ou les psychologues à vouloir un peu trop responsabiliser les enfants et tout ça, donc de temps en temps, il faut se mettre des freins. Il n'y a pas de secret, je pense que toute femme doit avoir un moment pour elle et toute maman doit avoir un moment de connexion réelle avec ses enfants. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir deux garçons extraordinaires de bientôt 16 ans et 13 ans et donc je les implique beaucoup. C'est-à-dire, il faut prendre le temps de se lever le matin, de les emmener, de prendre le petit déjeuner. C'est des rituels, ce n'est pas une question de temps passé, puis de temps en temps les emmener. C'est-à-dire que j'ai beaucoup impliqué les enfants dans des actions comme la distribution des 100 000 livres et de la création de bibliothèques dans les écoles défavorisées au Maroc ou au niveau du Sahara marocain. C'est-à-dire quand ils sont en vacances, j'essaie de les impliquer dans tout ce qui est associatif.
Oui.
Comme le grand peut m'accompagner quand il y a une mission ou une conférence et être un assistant qui est là, qui est présent et impliqué pour comprendre un petit peu le sens des passions, le sens des projets, le sens de la flamme qui fait qu'on a envie de faire des choses de manière très patriote pour le Maroc qu'on aime tous. C'est leur expliquer ces choses-là. Ce n'est pas toujours dans le temps passé, mais beaucoup dans la ritualisation des choses. C'est-à-dire, je ne manquerai jamais des vacances avec les enfants, les petits déjeuners ou les dimanches matins. C'est-à-dire, ce sont des rituels. Et quand on peut les impliquer, ben on les implique. Et comme ça, chacun a son air, en fait, de réalisation, eux-mêmes aussi avec leur programme.
C'est très joli ce que tu dis, parce qu'en fait, ce n'est pas l'émancipation d'une femme, l'épanouissement d'une femme, mais c'est la mission portée par cette femme pour le développement de sa communauté et de son pays.
Par des femmes, c'est-à-dire que je pense que quand on porte de l'amour à son prochain, entre guillemets, de l'amour à son prochain, à sa communauté, à son pays, on doit aussi, c'est par la mère que passent beaucoup de choses envers nos plus jeunes ou nos enfants. Donc on commence avant de pouvoir porter la flamme ou le flambeau ou venir avec des grands discours, on commence tout simplement par des petites choses du quotidien qu'on essaye de transmettre à ses enfants. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas fait ce que je te dis, mais plutôt fait ce que j'essaye de faire. Comprends-le, tout au moins comprends-le, parce qu'il y a une marche de personnalité où chacun d'entre eux va évoluer à sa manière. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être des petites copies de nous et ne peuvent pas être des copies de ce qu'on aurait voulu être, les deux.
Absolument.
Donc
absolument.
Ils feront leur propre chemin. Donc c'est ces choses-là, mais pour comprendre justement ces absences, ils ont besoin de comprendre quelle est la mission portée, quel est le flambeau porté et quelle est la passion qui fait cette mouvance-là.
Absolument. Mais alors, au-delà des absences à cause des déplacements, donc il y a aussi ton amour pour l'écriture.
Oui.
C'est à la fois des livres...
Chaque dimanche, ça, l'écriture.
Pardon ?
Chaque dimanche, l'écriture. Oui, parce que ça permet, les enfants font leurs devoirs et à côté, on écrit.
C'est ça.
Et ça permet d'avoir aussi un moment ensemble. C'est-à-dire, on ne leur fait pas faire leurs devoirs en étant devant la télé ou en faisant autre chose. C'est de pouvoir passer un moment de travail ensemble. Et oui, j'adore écrire. J'adore écrire.
Et ça, en fait, ta solution à toi, c'est de le mettre dans le contexte de leurs devoirs aussi. C'est de se mettre ensemble et on travaille tous.
De pouvoir se mettre ensemble, et c'est ça, on travaille ensemble tous.
Ouais. En fait, tu le dis de façon tellement naturelle, mais derrière, on se pose la question, on se dit comment elle fait pour produire autant d'articles, de livres, pour justement assurer ses engagements vis-à-vis de ses patients, s'engager dans des conférences à l'international. Mais derrière, il y a de l'intelligence émotionnelle.
Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et comme je le dis toujours, c'est très important d'avoir de la distance thérapeutique, de pouvoir travailler avec les patients. Mais l'empathie et l'émotion sont extrêmement importants pour pouvoir créer de vrais liens. Voilà, donc ça, c'est très important. Bon, l'écriture, c'est vraiment une fois par semaine. C'est vrai que j'ai des chroniques, deux chroniques par semaine qui sont là, qui sont posées, qui ont pris leur cours. Et en général, c'est un livre par an. Donc un livre par an, on a le temps d'écrire, de corriger. Et des livres collectifs. Les livres collectifs, c'est différent parce que c'est plus quelque chose, souveraineté sanitaire en Afrique, c'est un travail commun, c'est-à-dire avec deux autres collègues, un collègue marocain, trois autres collègues, un collègue marocain, un collègue du Kenya et d'Afrique du Sud, où c'est 46 auteurs, donc c'est un travail de coordination, on n'est pas seul. J'aime beaucoup les choses qu'on peut faire à plusieurs pour essayer de porter des messages. Donc, et là, on vient de sortir... Également avec mon ami journaliste et producteur Najib Abdelhaq, avec M. Morgan Chetty d'Afrique du Sud et M. Hamid Taker du Kenya. On vient de porter, et professeur David Rayat également, on vient de porter le livre Harm Reduction de Manifesto 2025. Donc c'est la réduction des risques en santé. Mais là aussi c'est très large. C'est dans une dimension économique, c'est dans une dimension sociale, c'est justement de pouvoir élargir la notion de santé. Élargir la notion de santé, parce que la santé ne peut pas être aujourd'hui qu'organique et physique. C'est dans son intégralité. C'est la dimension du bonheur, c'est la dimension de l'implication dans la communauté, c'est l'implication aussi dans le lien, parce que la rupture de lien social et le fait de ne pas avoir un message à porter ou un travail, une naissance dans sa communauté, c'est ce qui fait la rupture sociale. Il faut qu'on soit utile.
Oui.
Il faut qu'on soit utile à tous les maillons de l'échelle. Quand on se sent utile, on se sent impliqué dans sa société et on ne peut pas lui porter préjudice.
Par rapport à ça, il y a aussi le combat que tu mènes contre la méthadone. C'est bien ça ?
Oui.
Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ?
Ouais. Oui.
Contre, tu n'aimes pas cette formule ?
En fait, je suis pas contre la méthadone. C'est juste que on a eu l'occasion de faire des formations avec l'équipe. Moi, j'ai eu la chance. Tout à l'heure, tu as parlé du fait de voir les patients, de pouvoir gérer. Moi, j'ai la chance d'avoir une très belle équipe où on travaille en coordination. Donc, ça aussi, ça permet de pouvoir faire plusieurs choses. donc avec des psychiatres, des psychologues et tout ça. C'est ce qui permet d'avoir une coordination d'équipe et de pouvoir répondre en fait à la demande, à la présence des patients et à l'accompagnement. Alors la méthadone c'est un produit extrêmement important pour le sevrage d'opioïdes. C'est un produit de substitution. Maintenant, la donnée de la méthadone pour pouvoir faire un sevrage ou en tant que traitement de substitution sur le long terme, il y a aussi des règles pour que la méthadone ne devienne pas un produit en fait, d'usage illicite aussi.
C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit contre en fait. C'est ça, c'est voilà. Contre mais ça. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai que c'est l'alternative pour accompagner le sevrage de l'héroïne, c'est bien ça.
C'est ça, les opioïdes, l'héroïne. Maintenant, il y a un tas de soucis médicamenteux, pas seulement la méthadone pour la substitution, qui, une fois sortis de leur contexte ou vendus en rue, deviennent des médicaments délétères et sortent de leur usage pour devenir des drogues.
Aujourd'hui,
il y en a plusieurs. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, il y a ça dans le nord du Maroc particulièrement. Et quand on avait fait les formations il y a 2 ans, on avait parlé de cette histoire de méthadone parce que c'est une question de formation, de savoir comment dégraisser les doses pour permettre à certains d'être sous dose minimale efficace pour les cas lourds d'héroïnomane, mais pour d'autres, de pouvoir arrêter.
Absolument. Il y a beaucoup de femmes consommatrices ?
Dans le nord du Maroc, il y a autant de femmes que d'hommes.
Autant.
C'est un ratio 1, oui, il y en a autant. Dans d'autres villes, on va avoir un ratio différent où il va y avoir plus de consommateurs d'opioïdes en général, des opiacés, même médicamenteux, parce qu'aujourd'hui, tous les antidouleurs sont dans la famille des morphiniques également et sont consommés de manière différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans l'injection dont on a peur et dans cette stigmatisation qu'on peut voir dans le nord. Il y a aussi consommation d'opioïdes, d'ailleurs, qui est un problème de santé publique majeur en Amérique du Nord. C'est le premier problème de santé et qu'on commence à voir maintenant chez nous aussi. Les antidouleurs vont poser un problème, pas aujourd'hui de la même manière qu'en Amérique du Nord, mais dans 15 ans, ça sera le cas.
Ah oui.
Comme dans d'autres pays, ceux qui sont en train de le vivre de manière probante. Comme l'histoire du crack ou de le poufa aujourd'hui.
Alors,
c'était un problème il y a 20 ans aux USA.
Et là, on est en train d'importer ce problème au Maroc, c'est ce que tu dis ?
Bon, on l'importe partout dans le monde, on ne l'importe pas au Maroc particulièrement. C'est-à-dire que c'est partout dans le monde, cette consommation. Maintenant, la façon de l'appréhender, je pense que les médias font un rôle absolument extraordinaire, sont très présents sur cette histoire de consommation de crack. Parce que bon, il y a un fossé de génération entre ceux qui consomment et puis leur parentalité qui ne sait même pas ce que c'est, qui connaît que les drogues classiques. Et je pense que le fait de voir ce qui se fait et en termes d'autorité et en termes de médias, je pense que le travail est extraordinaire.
Maintenant, justement, tu m'as inquiétée par rapport à ces histoires de je ne connais pas le terme. Les médicaments, exactement, les antidouleurs. Ouais. Parce qu'à chaque fois que j'ai pu voir des documentaires là-dessus, mais c'est horrifiant. Mais comment ça se fait justement, connaissant la problématique, qu'on utilise ces médicaments, chez nous au Maroc ?
Ben, ils sont utilisés partout dans le monde. Le problème d'antidouleur, il est partout dans le monde. Maintenant, plus on sensibilise, plus on fait de prévention, moins c'est délivré sans ordonnance, parce que ce n'est pas délivré sans ordonnance normalement, moins il y a d'entorse à la règle, moins on aura de problèmes. Mais les antidouleurs, c'est un problème aujourd'hui, maintenant également en Europe, etc. C'est-à-dire que c'est un problème de société. Parce que les cerveaux ne sont pas tous... c'est-à-dire qu'on peut avoir une névralgie de trijumeau, avoir des douleurs et nécessiter ces antidouleurs. Ils ont un début et une fin, et surtout une dose à ne pas dépasser. Et il y a des patients plus fragiles que d'autres à développer certains types d'addictions. Voilà.
Et alors, ce type d'addiction, on ne les voyait pas avant,
et
mais
les
pourquoi
femmes,
ça
puisqu'on parle des femmes, les femmes ont tendance à être fragiles par rapport à ce qu'on appelle aux addictions licites. C'est-à-dire des médicaments, ça passe mieux, toutes les choses licites vont moins vers les choses illicites, les somnifères, ce genre de choses.
Oui. Ton regard, pas de spécialiste, mais bon, de spécialiste femme sur cette situation, sur la femme dans l'addiction.
La tristesse, en fait, ça va être un regard triste parce que beaucoup de femmes dans l'addiction ne vont pas avoir tendance à consulter parce qu'il y a encore ce côté tabou. Elles vont moins vers le soin, elles vont moins vers la demande, particulièrement dans le secteur public parce qu'il y a encore ce regard stigmatisant envers la femme. Maintenant, dans le secteur privé, on en voit plus, toutes catégories socio-intellectuelles confondues. Mmh. Donc, il y a consommation d'alcool, il y a consommation de cannabis, il y a consommation de benzodiazépines, c'est-à-dire de somnifères à outrance, il y en a. Et maintenant, chez les jeunes, c'est-à-dire adolescents et jeunes adultes, il n'y a plus cette... c'est-à-dire moi, quand j'ai démarré une vingtaine d'années, on disait il y a plus de consommation chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles.
Ouais.
Mais on a tendance à voir les choses s'égaliser et la consommation est pareille aujourd'hui chez les 18-25 ans en consultation. D'ailleurs, on gagnerait à faire une étude. On voit le ratio arriver à 1 et qu'il n'y a plus de différence de consommation entre les jeunes filles et les jeunes garçons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sexe protecteur.
C'est
ça. Les garçons qui sont plus... Voilà, il n'y en a plus.
Ouais.
Partout dans le monde, là aussi. C'est-à-dire que c'est inhérent à un mouvement de société post-moderne mondiale.
Cette interview a été vraiment très thématisée, très technique, j'ai l'impression, par rapport aux autres de femmes d'aujourd'hui. Mais c'est parce qu'elle est portée par cette femme. Moi, j'ai l'impression que la grande partie de ta vie est consacrée à ton boulot.
Beaucoup d'amour pour le travail. En fait, je ne travaille pas. Le jour où je me lèverai le matin en ayant l'impression de travailler, avec une épée de Damoclès sur la tête, je ferai autre chose.
Ouais, c'est
j'adore
ça.
J'adore cuisiner aussi.
Okay. Donc, en fait, tout ça, tu le fais par passion et pour toi, ce n'est pas un boulot.
Et par bonheur, exactement.
Et par bonheur.
Avec beaucoup de plaisir d'être avec les gens, de pouvoir les accompagner, de pleurer des fois avec eux.
Ouais.
Et je pense que l'émotion doit être gardée, quelle que soit la casquette.
Iman Qandili, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi Yasmine, c'est un bonheur et merci pour ce que tu fais.
Ben, c'est un plaisir et merci de pouvoir compter sur des femmes aussi engagées et amoureuses de leur mission de vie.
Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, dont toi Yasmine, ont une passion, un engagement et beaucoup d'amour pour ce qu'elles font et portent la société de demain.
Et ben, merci beaucoup, Iman. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.